Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères, je vous exhorte à mener une vie digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés en toute humilité, mansuétude et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quelle est cette vocation dont parle l'apôtre saint Paul? C'est la vocation chrétienne. La vocation chrétienne, Jésus lui-même en a lancé l'appel solennellement avant de remonter au ciel. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Cette vocation chrétienne est universelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est l'annonce de l'accomplissement par notre Seigneur Jésus-Christ de toutes les espérances de l'humanité déchue. C'est une vocation à l'amour entre Dieu et sa créature raisonnable, l'homme. Le baptême est le point de départ qui opère une transformation radicale. Nous ne sommes plus seulement des créatures raisonnables, mais nous devenons, dit saint Pierre, participants de la nature divine. Nous sommes comme déifiés, et ce n'est pas seulement de nom, dit saint Jean, mais en réalité, nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons nous adresser à Dieu et l'appeler du nom de Père. Ce que l'homme ne pouvait ni désirer, ni même concevoir, Dieu l'a réalisé par sa toute-puissance mise au service de sa bonté. En s'incarnant et en nous rachetant, notre Seigneur a rendu possible que nous répondions à son amour. En effet, au baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit qui a répandu sa charité dans nos cœurs. Nous pouvons désormais aimer Dieu comme Dieu aime. Nous pouvons réaliser ce que Dieu commande. Et il nous le rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Toute la loi étant renfermée dans ces deux commandements. Toute la loi, c'est-à-dire tout le christianisme, toute la vocation chrétienne. Et notre Seigneur a confirmé cela dans son enseignement sur le jugement universel. Ces deux commandements n'en font qu'un, et c'est sur la charité fraternelle faite au nom de Dieu que tous les hommes seront jugés à la fin du monde. Il est donc de la plus grande importance pour notre salut que nous pratiquions dans notre vie quotidienne cette charité. Et cette charité, elle comporte un ordre pour bien la pratiquer. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, le servir dans cette vie et jouir ensuite de lui au paradis. C'est ce qu'enseigne le catéchisme. Pour le connaître, il nous a donné cette belle faculté qu'est l'intelligence, qui doit montrer le vrai bien à la volonté. Mais cette faculté, blessée par le péché originel, souffre de la blessure d'ignorance et se trompe très souvent. C'est la vertu de foi donnée au baptême qui va rectifier cette faculté. Elle lui permet de présenter à la volonté les vrais biens vers lesquels elle doit tendre. La foi est comme un phare qui éclaire le chemin dans lequel nous devons marcher pour atteindre notre but, Dieu. Sans ce phare, les hommes sont capables des erreurs les plus lamentables. Toute l'histoire nous le raconte. N'a-t-on pas vu, il y a encore pas si longtemps, des hommes anthropophages, au XXe siècle? Un frère, il y a quelques années, ayant fait son service militaire en Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, nous racontait que l'arrière-grand-père d'un paroissien avait été anthropophage, c'est-à-dire il avait mangé de la chair humaine. Pourquoi? Parce que la chair humaine est bonne et c'est meilleur que du gibier? Non, certainement pas. parce que ces hommes croyaient qu'en mangeant un autre homme, on s'appropriait les qualités de son âme. Par exemple, la force, l'intelligence et toutes sortes de dons. Donc, l'anthropophagie est une véritable religion. Ne voit-on pas aujourd'hui les hommes athées faire de la terre un véritable dieu, la déesse mère, à laquelle il faut tout sacrifier, l'économie et même la propagation de notre espèce, car sa multiplication détruirait la planète. Les hommes polluent, donc il faut détruire les hommes. Grâce à la vertu de foi, qui fait adhérer notre intelligence aux vérités révélées, notre volonté pourra en toute sécurité s'élancer vers les vrais biens qui lui sont présentés. Mais notre volonté elle-même est blessée par la malice. Elle a besoin d'être purifiée, fortifiée par la vertu de charité. Les biens terrestres ont en effet un pouvoir fascinant, pouvant obscurcir l'intelligence et faire en sorte que nous les préférions à Dieu, même s'il s'agit de biens légitimes. Certes, il est facile de comprendre que Dieu étant le bien suprême, la source et le principe de notre bonheur, nous devons l'aimer plus que nous-mêmes et plus que tous les autres biens. Mais en pratique, ce n'est pas toujours facile. Aimer Dieu, c'est avoir aussi une haine du péché, car il y a incompatibilité entre Dieu et le péché. C'est avoir la haine de tout ce qui conduit au péché. Si nous aimons vraiment Dieu, nous devons être zélés à combattre tout ce qui pourrait porter atteinte à cette amitié. Que d'occasions de péché il y a à sacrifier si nous voulons préserver cet amour. Par exemple, Internet est-il cause de péché grave pour moi? Si oui, il n'y a pas à hésiter. Il faut prendre des mesures radicales. Mener une vie chrétienne exemplaire, vertueuse, demande aussi souvent des renoncements héroïques pour préférer la volonté de Dieu à la nôtre. Prenons un exemple dans la vie de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Alors qu'elle était veuve depuis l'âge de 28 ans du baron de Chantal, tué dans un accident de chasse, elle fut dirigée dans sa vie chrétienne ensuite par Saint François de Sales. Quand sa vocation à la vie religieuse fut claire, le saint lui demanda de faire les adieux à sa famille. La famille fut réunie ainsi que les amis dans la maison familiale chez son père ou chez son beau-père, et son père, Monsieur Frémiot, président du Parlement de Bourgogne, vénérable chrétien, arrive à cette réunion familiale. Jeanne-Françoise reçoit sa bénédiction à genoux. « Oh mon Dieu !» murmure le vieillard en étendant les mains. « Il ne m'appartient pas de trouver à redire à ce que la Providence a décidé. J'y acquiesce de tout mon cœur et consacre de mes propres mains sur l'autel de votre volonté cette unique fille qui m'est aussi chère qu'Isaac l'était à votre serviteur Abraham. » Il fait ensuite lever sa fille, lui donne le dernier baiser de paix. « Allez donc, dit-il, où Dieu vous appelle, et arrêtons tous les deux le cours de nos pleurs, pour faire plus d'hommage à la divine volonté. » Après Dieu, les autres objets de la charité sont nous-mêmes, et ensuite le prochain. Notre prochain, c'est ceux qui nous sont le plus proches. Notre époux, notre épouse, nos enfants, toute notre famille, nos voisins, nos collègues de travail. Alors, voyons un petit peu cette charité fraternelle envers notre prochain. Celui qui prétend aimer Dieu et est son frère est un menteur, dit Saint Jean. Pourquoi dit-il cela ? Parce que, nous dit saint Thomas, le fondement vrai de l'amour du prochain, comme de l'amour de Dieu, c'est la communauté de nature, de vie, de fin, de bonheur, établie entre nous ici-bas par la grâce, nous vivons de la même vie divine, et dans le ciel par la gloire. On ne peut pas aimer en Dieu sa vie, son bonheur, et haïr notre frère qui a en lui une participation à cette vie et à ce bonheur. Ce n'est pas possible. Dans la pratique, c'est difficile, car cette vie divine en nous, comme dans notre prochain, elle cohabite avec des défauts, des imperfections. Cela demande de notre part de passer par-dessus, et cela ne peut se faire que par la pratique des vertus et parfois d'une manière héroïque. Nous sommes souvent arrêtés dans la pratique de la charité fraternelle par des antipathies naturelles, par l'envie du bien ou des qualités du prochain que nous n'avons pas, par le ressentiment envers ceux qui nous ont traités durement ou fait quelque tort. Si on ne combat pas ces choses, elles vont se fortifier et peuvent aboutir à la rancune et enfin à la haine. Les saints ont tous donné des exemples héroïques de ces combats, et ces combats les ont conduits à la sainteté. Restons-en à la vie de sainte Jeanne Françoise pour illustrer cela. Elle s'est mariée à l'âge de 20 ans avec le baron de Chantal, qui avait 27 ans. Elle formait avec son mari un couple parfait qui s'aimait tendrement. Ils eurent 6 enfants. Son mari, qui n'aimait pas la chasse, voulut faire plaisir à son cousin et ami en acceptant de l'accompagner à une journée de chasse. Il eut le malheur de mettre ce jour-là un habit couleur de biche. Accident classique, son ami, à travers les broussailles, crut que c'était un gibier. Il a manqué de prudence. Il tira, elle lui cassa la cuisse, et la blessure qui s'ensuivit devait le conduire à la mort une dizaine de jours plus tard. Le baron de Chantal, 35 ans, fut héroïque. « Mon cousin, mon ami, tu as fait ce coup par imprudence. Je te pardonne de tout mon cœur. » Son ami était au désespoir. « Mon cousin, mon ami, reprit le baron, ce coup m'est tiré du ciel avant qu'il partît de ta main. Je te prie, ne pêche point et prie Dieu pour moi. » Et il fit écrire ce pardon par écrit et commanda à son fils, qui était encore petit, 8 ans à peine, de ne jamais venger sa mort. Son épouse, Jeanne Françoise, était dans une douleur, une affliction qu'on ne peut pas dire. Elle avait la foi, mais n'avait pas une foi si forte que son mari. Elle n'arrivait pas à pardonner. Cela dura 5 ans. Et puis, elle fit la rencontre de saint François de Sales chez son père à Dijon. Et celui-ci devient son directeur spirituel et il va l'aider de ses conseils. Donc, il lui conseilla d'accepter une entrevue avec le cousin de son mari. Elle eut une brève entrevue extrêmement pénible avec l'ami et le meurtrier de son mari. Le mot de pardon lui coûta plus que tout l'ouvrage de sa sanctification. Mais ce fut une victoire complète sur son pauvre cœur. Et à partir de ce moment-là, elle a fait des progrès incroyables dans la sainteté. Et pour bien montrer que vraiment elle avait demandé pardon, elle accepta même d'être la marraine d'un enfant du cousin de son mari. C'est en posant des actes de vertu informés par une charité forte qu'on arrive à détruire un défaut. Il ne faut pas se contenter de velléités. Oui, je ferai attention sur Internet. Mon cousin ou mon frère, etc. On se parle pas trop, etc. Bon, je vais tâcher de. On verra dans l'avenir. On trouvera une occasion pour que ça s'arrange. Il faut prier pour demander les grâces nécessaires et il faut poser les actes que le bon Dieu nous demande. Si on ne pose pas un acte précis, qui peut être parfois héroïque, ça n'aboutira pas. Il en est de même pour tous les défauts. Alors demandons par l'intercession de la Vierge Marie au Seigneur d'éviter la contagion diabolique. Le démon se réjouit justement de cela. Et lui, il ne veut pas qu'on fasse des actes héroïques. Donc il nous fait retarder. Voilà, demandons-lui au Seigneur de le suivre lui seul avec un cœur pur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.